Amis, frères et sœurs, la grâce et la paix nous sont données ici et maintenant de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à chacun et à chacune pour ce temps de culte. Soyez ici chez vous, dans cette maison, où nous sommes venus pour nous ouvrir à la présence de Dieu, à sa parole dans la lecture de la Bible, et pour le célébrer par le chant et la prière. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent par le biais du site internet ou par celui des réseaux sociaux. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Le mois de janvier est non seulement l'époque privilégiée des vœux, mais aussi celle de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui se situe chaque année du 18 au 25 janvier. Alors c'est avec joie et reconnaissance que nous accueillons aujourd'hui le Père Yves Trochery, prêtre de l'oratoire et curé de la paroisse Saint-Eustache. Il nous donnera la prédication de ce culte. Et bienvenue en particulier à nos frères et sœurs de l'Église catholique présents dans ce temple, mais également à tous les frères et sœurs qui viendraient d'une autre dénomination confessionnelle. Pendant ce temps, ma consœur, la pasteur Béatrice Cléromazir, est invitée à prêcher à l'église Saint-Eustache. C'est ce que nous appelons un échange de chair. Cette semaine de prière existe en France depuis 1933, sur l'initiative du père Paul Couturier, à Lyon, mais elle a pris son essor au moment de Vatican II, en 1965. L'animation de cette semaine de prière a été confiée au Conseil des Églises du Moyen-Orient avec ce passage de l'Évangile de Matthieu. Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. Les chrétiens, toutes confessions confondues, prennent le même chemin de la prière, sincère, reconnaissante, louange qui vient du cœur autant que bénédiction qui engage. Alors bienvenue et merci en particulier à David Cassan, organiste co-titulaire de l'Oratoire du Louvre, pour son accompagnement musical ce matin. Et bienvenue aussi à Alexandre Korovitch, qui dirige le chœur de l'Oratoire, qui est présent pour ce culte. Prions ensemble. Dieu éternel et miséricordieux, toi qui es un Dieu de paix, d'amour et d'unité, nous te prions et nous te supplions de rassembler par ton Esprit Saint tout ce qui s'est dispersé, de réunir et de reconstituer tout ce qui s'est divisé. Veuille aussi nous accorder de nous convertir à ton unité, de rechercher ton unique et éternelle vérité, de nous abstenir de toute dissension. Ainsi, nous n'aurons plus qu'un seul cœur, une seule volonté, une seule science, un seul esprit, une seule raison, tourné tout entier vers Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors nous pourrons t'appeler Père et te louer d'une seule bouche et te rendre grâce par notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Esprit Saint. Amen. Nous ouvrirons ce culte en prenant dans le psautier français le petit feuillet de répons. Le premier réponse s'intitule « Bénissons Dieu, le seul Seigneur » et je vous invite à vous lever. « Dieu avec un extrait du psaume du jour, le psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Le jour en prodigue au jour le récit. La nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un récit, il n'y a pas de mots, leur voix ne s'entend pas. Leur harmonie éclate sur toute la terre et leur langage jusqu'au bout du monde. Là-bas, Dieu a dressé une tente pour le soleil. C'est un jeune époux sortant de la chambre, un héros joyeux de prendre sa course. D'un bout du ciel, il surgit, il vire à l'autre bout et rien n'échappe à sa chaleur. Nous poursuivons notre louange en prenant maintenant dans le psautier français le chant du psaume 19, les strophes 1, 2, 3 et 4. Prenez place. Rappelons-nous maintenant la place que tient la volonté de Dieu dans nos vies. La loi du Seigneur est parfaite. Elle rend la vie. La charte du Seigneur est sûre. Elle rend sage le simple. Les préceptes du Seigneur sont droits. Ils rendent joyeux le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide. Il rend clairvoyant. La crainte du Seigneur est chose claire. elle subsiste toujours. Les décisions du Seigneur sont vérité, toutes elles sont justes, plus désirables que l'or et quantité d'or fin, plus savoureuses que le miel nouveau. Et nous prenons le deuxième répond qui s'intitule « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » à l'entrée du psautier français. Prions ensemble. Éternel Dieu de la vie, pour te louer, nous n'avons pas assez de reconnaissance. Pour te demander pardon, nous n'avons pas assez d'humilité. Pour te confesser, nous n'avons pas assez de foi. Pour te remettre nos vies, nous n'avons pas assez confiance en toi. Viens à notre secours. Sans rien avoir, mais en attendant tout de toi, nous te demandons de venir régner sur notre monde, de te manifester parmi les hommes, de prendre ta place dans notre vie. Nous sommes des enfants blessés et fragiles. Apprends-nous à vivre ta grâce. Nous sommes des enfants violents et coléreux. Apprends-nous à vivre le service. Nous sommes tes enfants. Apprends-nous à vivre ensemble avec toi. Nous te le demandons au nom de ton amour pour chacun et chacune de nous. Jésus le Christ. Amen. J'aime mon Dieu car il entend ma voix. C'est le troisième répond. Pour accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel et je te garde ma miséricorde. Amis, frères et sœurs, voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Alors que Dieu mette en nos cœurs l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher ensemble, réconciliés, vers son royaume, chantons à Dieu notre reconnaissance. Et ce sera le quatrième répond. Nous restons debout pour confesser notre foi, une confession de foi que je prendrai dans le registre pastoral, puisque c'est un texte écrit par ma consœur Béatrice Cléromazir, et c'est un texte en lien avec le verset choisi par le Conseil des Églises du Moyen-Orient. Nous avons vu son astre et nous sommes venus lui rendre hommage. Nous croyons en Dieu qui se montre à nous dans un petit enfant. Il nous rappelle notre condition humaine et peut nous sauver de toute arrogance. Il nous adresse sa parole de grâce en habitant notre terre. Grâce à lui, nous sommes bénis chaque jour. Nous croyons en Jésus, l'enfant qui naît à Bethléem. Il est la parole de Dieu incarnée. Il nous parle de la foi qui transforme toute vie en espérance. Grâce à lui et à sa foi, nous pouvons affronter l'adversité avec confiance. Nous croyons en l'Esprit Saint, celui qui inspira Joseph, Marie, Élisabeth, Zacharie et tous les témoins qui ont accueilli Jésus comme le Messie. Il nous éclaire dans la foi comme une étoile et convertit notre cœur. Grâce à lui, nous pouvons rester fidèles à Dieu. Que l'étoile annonce son salut, que les mages du monde entier la suivent, que les bergers se remettent en marche et que les anges chantent ses louanges. Nous croyons en un Dieu qui croit assez en nous pour nous rejoindre dans notre fragilité. De la naissance jusqu'à la mort, sa foi est notre résurrection. Amen. Grand Dieu, nous te bénissons. C'est le dernier répond. Gloire à Dieu dans les cieux et d'éternité en éternité. Je vous invite à prendre place.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd'hui, s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. »
Alors, dans le recueil Louange et prière, maintenant, nous prendrons le cantique numéro 214, dont nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous lever.
Thank you.
c'est avec émotion, mais aussi avec une petite crainte que je vais prêcher devant vous, sachant, et je sais que dans la tradition réformée, la prédication étant un moment central de l'office. D'avance, je vous remercie pour votre écoute. D'avance, je vous remercie, Agnès et Aurore, pour votre confiance. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Le texte, l'Évangile, qui a été lu aujourd'hui, est en fait l'Évangile prévu dans l'Église catholique pour le troisième dimanche, dit du temps ordinaire, de l'année C. Il y a trois années liturgiques. J'ai choisi ce verset parce qu'il m'a semblé très pertinent pour pouvoir parler de l'unité qui nous traverse. Oui, comme l'a dit Agnès au début de cet office, en cette semaine, nous prions pour l'unité des chrétiens. Unité qui, avec les crises que nous traversons, notamment celle de la pandémie, doit nous paraître essentielle. En ce sens où toutes les sources de réconciliation, tous les gestes produits en faveur de la paix, ramènent notre conscience à cette liberté de pouvoir encore espérer. Cette année, la semaine de prière pour l'unité est animée par le Conseil des Églises du Moyen-Orient. Tous les chrétiens rappellent ainsi communément combien l'implantation historique du christianisme au Moyen-Orient est une donnée dont nous devons assurer l'avenir. À ce titre, le Conseil des Églises d'Orient a choisi le passage de l'Évangile de Matthieu, Matthieu 2:2, où il est dit « Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. » C'est bien cette étoile qui brille à l'Orient, qui guide le pas des hommes et des femmes vers la justice, la paix et la joie. Et j'ajoute, conformément à l'Épître aux Éphésiens, Éphésiens 3:6, que cette joie qui commence en Dieu fait enfant, que cette joie qui vient ultimement de Dieu est universellement destinée, pas simplement au peuple d'Israël, pas simplement aux chrétiens, mais bien à tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté. Je cite, les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ par l'annonce de l'Évangile. Aujourd'hui même, tous les chrétiens sont invités à emprunter d'un même cœur ce chemin vers l'espérance que Dieu nous offre. Cela, l'oratoire du Louvre et la communauté de Saint-Eustache essayent de le vivre ensemble, à leur mesure, certes, mais assurément. Au moment où je prêche devant vous, Béatrice Cléromazir, votre pasteur, est un Saint-Eustache et elle va y proclamer l'Évangile et le commenter, précisément ce texte de l'Évangile que je vous ai lu. Depuis plusieurs mois, la pasteur Agnès Schaeffer-Adeline et moi-même nous retrouvons mensuellement pour animer ensemble le groupe œcuménique biblique. De même, et je viens de parler du chemin vers l'espérance à emprunter tous ensemble, l'Église revient à la demande du pape sur sa manière de vivre la synodalité. Vous savez que synodalité, synodos, c'est, veut dire le chemin commun. Tous les catholiques sont ainsi appelés à se réunir selon la diversité de leur mode de rencontre, en réfléchissant, mûris par l'appel à l'Esprit Saint, à leur être avec. Le pape a tenu à ce que cette réflexion de notre être avec implique la présence de nos frères et sœurs dans la foi. C'est pour moi une véritable joie intérieure que de savoir la pasteure Agnès Schaeffer-Adeline, participante de la commission et de la démarche synodale qui sont lancées dans la paroisse dont j'ai la charge. J'ajoute que la présence d'Agnès dans cette commission est très fortement appréciée et que nous vivons vraiment avec elle un partage fraternel. Oui, et à l'occasion de cette démarche synodale, de cette consultation synodale, face également aux crises que nous traversons, celle par-dessus tout du phénomène de la pédocriminalité dans l'Église catholique, nous avons vraiment besoin de votre présence, nous avons vraiment besoin de vos prières. De cette crise, de ces crises, nous ne sortirons victorieux que si nous répondons tous authentiquement à l'appel qui est contenu dans la parole de Dieu, que si encore nous trouvons la liberté de porter un regard nouveau sur notre manière de nous rassembler. Je tiens absolument à rappeler que toutes les églises ont des manières propres de se rassembler, tant et si bien que le désir de l'unité pour les chrétiens ne doit pas se confondre avec le souci de créer une église indivise. Un tel souci serait l'expression d'une utopie nourrie d'une intention malheureuse. Les chrétiens ne sont cependant pas dépourvus d'une intention qui les oblige à se retrouver, à partager, à espérer ensemble. Nous permettons de le rappeler, je me permets de le rappeler, l'œcuménisme prend sa source véritable dans la grâce du baptême. Plus précisément, il y a ce verset cinquième du quatrième chapitre de l'Épître aux Éphésiens. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais le don du baptême ne trouve-t-il pas racine, ne trouve-t-il pas la force de son déploiement dans une forme d'expérience humaine que toutes les traditions chrétiennes mènent justement en avant. Je veux dire, la promotion d'une idée de l'homme dont le christianisme pourrait prétendre l'avoir engendrée, alors que cette même idée paraît être curieusement d'une universalité que l'on ne peut pas contester. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Cette parole de Jésus doit, me semble-t-il, nous donner à réfléchir sérieusement sur le rapport que le chrétien entretient au temps. Nous pouvons considérer une première chose. L'aujourd'hui que Jésus invoque dans cet évangile et lui-même est d'abord riche d'une parole immémoriale. Sous la forme de l'accomplissement, cette parole, le texte d'Isaïe, est constitutive de l'aujourd'hui que Jésus évoque. En d'autres termes, la parole d'Isaïe a échappé à une forme déterminée du temps, celle précisément où il n'est question que d'un temps qui passe, ce temps où il n'est question que de la succession du passé, du présent et du futur. Plaçons toute l'expérience que nous avons du temps sous la figure de l'accomplissement. Il faudrait alors comprendre le passé autrement que sous la forme d'un avoir été. Le passé ne serait nullement le bagage que l'on posséderait et qui se remplirait au fur et à mesure que le temps s'écoule. Il serait plutôt ce qui ne cesse pas d'être. Je ne cesse pas d'être l'enfant que j'ai été. Nous pourrions ici parler du toujours déjà, le toujours déjà de la parole d'Isaïe. Et le futur. S'il est à penser comme dominé par la figure de l'accomplissement, il devient l'avenir. Ce qui vient, autrement dit, le lent et patient avènement d'un temps qui serait la forme finale du temps. Toute notre expérience du temps serait ainsi marquée par l'imminence d'une révélation comblant entièrement ce que l'être humain recherche en termes de proximité qui l'approprie à Dieu et à lui-même. Ici, nous pourrions parler du toujours encore. Vivre à la contrée. Petite précision, en allemand, la contrée, ça se dit Gegend. C'est ce qui est contre, et c'est le même préfixe qui est utilisé dans l'usage du mot présent. Gegenwärtig. Vivre à la contrée, vivre dans la contrée de ce qui nous tient à distance de l'accomplissement et de ce qui en lui advient à neuf de ce que nous avons été, tel est le présent qui nous détournerait définitivement d'un pur maintenant. Nous sommes alors rapportés au temps en tant qu'il se produit. Peut-être même sommes-nous ramenés à l'aujourd'hui dont Jésus parle dans l'évangile de Luc. Une telle prodigalité du temps est certainement ce qui advient au plus profond de nous-mêmes. Oui, l'homme ne serait peut-être pas essentiellement un composé de corps, d'âme et d'esprit, mais d'abord et avant tout, une temporalité. Si j'ai dit tout cela, et ce fut certainement très fastidieux, c'est pour exprimer combien notre vie est fondamentalement temporelle. Cela a des auteurs comme saint Paul, saint Augustin et Luther, l'ont bien envisagé. Vous connaissez notamment, peut-être, les remontrances que Luther a adressées à Aristote, et précisément sur cette conception du temps. Mais cela, ces membres de votre tradition, ces membres de notre tradition, mais cela, il le suggère en partant de la foi dans sa propriété éminemment eschatologique. L'aujourd'hui, qui n'est plus cette date ou cette heure que je peux lire sur un cadran solaire ou sur une montre, devient l'appel incessant à la disponibilité, à ce qui, dans son retrait, demeure indisponible, le mystère de Dieu. Je reviens à mon idée de fond. Je vous rappelle qu'au départ, j'avais parlé d'une unité fondée dans l'unité, dans la grâce du baptême. J'ai suggéré par tous mes propos qu'il y avait cette unité que l'on peut appeler unité en espérance et qui nous renvoie à cette figure de l'accomplissement de notre temps, sachant que la finalité, l'unité dernière de cet accomplissement n'est pas saisissable, n'est pas maîtrisable par nous-mêmes. Il existerait en tout homme et en toute femme une expérience fondamentale qui les exposerait de manière appropriée à rejoindre l'aujourd'hui auquel Jésus, dans sa parole immémoriale, les appelle avec leur propre existence temporelle. Ce retour pour eux à un temps autrement compris et plus originel serait peut-être le lieu ou l'un des lieux de l'unité que nous cherchons à vivre. Une unité intrinsèquement marquée par l'expérience vivante et intérieure de la parousie. Oui, frères et sœurs, finalement, ne sommes-nous pas nous tous à la recherche de ce temps où la part la plus active de nous-mêmes, celle précisément dont les témoins de chacune de nos vies peuvent se souvenir, soit portée par une espérance en celui que nous reconnaissons comme notre avenir. Et cette part active ne serait-elle pas justement le lieu même où, en son retrait, la présence de Dieu le Père marque le destin de tous ceux qu'il reconnaît comme ses enfants. Je cite, « À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. » Saint Paul, 1er épître aux Thessaloniciens. Amen.
Merci au chœur de l'oratoire, accompagné par David Cassan et dirigé par Alexandre Korovitch, qui nous a interprété le cantique de Jean Racine, écrit par Gabriel Fauré, avec cette dernière phrase qui dit « Et de tes dons qu'il retourne comblé ». Puissions-nous aujourd'hui recevoir cette parole pour nous-mêmes, ici et maintenant, de partir tout à l'heure vers les routes que sont les nôtres, avec le cœur comblé. Nous allons continuer notre culte en prenant maintenant dans le recueil Louange et prière le numéro 338. Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps. La dernière fois que nous nous sommes vus, nous avons dit que chanter, c'était prier deux fois d'une certaine façon. Alors en fait, là, il n'y a que deux strophes, mais c'est comme si nous en chantions quatre. Alors je vous invite à vous lever et nous chanterons ces deux strophes du cantique 338. Prenez place. Je cède la parole maintenant à Aurore Sagliotebo, présidente du Conseil presbytéral.
Merci Agnès. Alors nous partirons, j'espère, le cœur comblé. Et pour faire plaisir aux panthères des scouts de l'oratoire, le ventre plein également. Donc à la sortie de ce culte, vous aurez les panthères qui vous offriront contre menu monnaie, les gâteaux qu'elles ont préparés, toujours pour leur... vous savez que les scouts de l'oratoire ont toujours besoin d'argent pour leur matériel de camp, pour leur voyage, etc. Et ces gâteaux les aident à financer leur projet. Voilà. Donc j'ai vraiment pensé aux éclaireuses en sortant. Elles sont charmantes. S'agissant des annonces... Nous n'arrêtons pas de le dire, mais nous le répétons, et un conseiller m'a demandé de le répéter à nouveau. Comme nous avons énormément de nouveaux chaque année, puisque nous avons fait plus de 20% de croissance les deux dernières années, il faudrait que tout le monde puisse s'inscrire sur ce qu'on appelle la newsletter, c'est-à-dire par email. Vous recevez tous les vendredis les nouvelles de l'oratoire. Si vous ne savez pas le faire, vous demandez aux conseillers qui sont là, vous nous envoyez un mail ou vous venez nous voir à la sortie du temple. On peut vraiment le faire en une minute. Ça vous permet d'être au courant des annonces, ça nous évite de les répéter tous les dimanches. Et également, vous avez aussi la mise à jour en temps réel sur le site de l'Oratoire du Louvre. Donc vraiment, c'est important. Si vous voulez avoir une vision plus longue, nous avons ce qu'on appelle la feuille rose, qui est à la sortie du temple, qui vous présente toutes les activités prévues pour le semestre. Alors en fait, ce n'est pas toutes les activités, c'est toutes les activités dont nous avons déjà connaissance et qui sont déjà organisées. Et cette feuille rose contient ce qu'on appelle un dossier en début. Et pour répondre à vous, Yves, sur l'unité, vous avez cité la crise de la pédocriminalité qui a été révélée. Et par rapport à cela, nous avons voulu nous prononcer en unité avec vous. On a été très frappés les pasteurs et moi-même et le conseil presbytéral, par le silence assourdissant des protestants sur le sujet. Donc, plutôt que de ne rien dire, nous avons voulu réfléchir. Réfléchir sur ce qu'on peut en tirer, nous protestants. Parce que l'unité des chrétiens, c'est pas simplement, ou ça ne devrait plus être, les protestants pensent ceci ou les catholiques pensent cela. C'est ce que je venais de discuter avec le pasteur Castelnau qui est là. C'est notre relation à Dieu, individuellement, dans notre intimité, et comment nous pensons Dieu, j'allais dire, individuellement. Parce qu'aujourd'hui, il y a autant de différences chez les catholiques qu'il y en a aussi chez les protestants. Donc le sujet n'est plus de se comparer entre catholiques et protestants, mais trouver dans les différents couvrants des liens communs dans notre relation à Dieu plus que dans notre relation à l'Église. Et donc ce dossier est sur ce sujet, si vous voulez également le prendre à la sortie du temple. Alors sur le champ, nous avons été dans la dernière nouvelle de l'oratoire, nous avons retransmis ta prédication sur le chant, également le Théophile qui était sur la musique religieuse. Donc vraiment, en ce moment, nous sommes beaucoup, beaucoup, beaucoup en train d'insister avec le conseil presbytéral sur l'importance du chant. Alors, comme on a encore très peu de monde le samedi matin au Venez chanter la veille du dimanche et que vous êtes encore timide, nous avons demandé à Alexandre Gorovitch, ici présent, viens Alexandre, de vous dire lui-même qu'il ne va pas vous manger si vous venez le samedi matin répéter les cantiques avec lui.
Merci beaucoup, Aurore. Non, je ne mange pas, je vous rassure. Par contre, je suis méchant. Non, je plaisante, évidemment. Le cœur de l'oratoire du Louvre a de nombreuses vocations et l'une d'elles est pédagogique. Et a donc pour objectif d'apprendre aux autres à chanter et d'inclure tous ceux qui veulent venir avec nous pour chanter avec nous, que ce soit les chants de travail du cœur ou les psaumes et cantiques chantés ici au culte à l'oratoire. Il y a une différence à faire entre les samedis du Venez chanter et les répétitions habituelles du cœur. Pour les samedis du Venez chanter, il n'y a pas d'audition à passer, chacun est libre de venir. Cela dure environ 1h30, entre 1h et 1h30, nous faisons, commence à 10h, faisons une petite demi-heure de chauffe, puis 1 heure de travail sur les psaumes et cantiques qui nous ont été communiqués par les pasteurs et qui seront chantés le lendemain au culte. Il n'y a pas besoin de savoir lire la musique, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau prérequis musical, d'avoir fait de la musique, d'avoir fait du chant. J'insiste là-dessus, vous êtes toutes et tous les bienvenus pour chanter avec nous, pour travailler avec nous. On essaye de mettre du sens dans le travail des cantiques et des psaumes. On essaye de le faire avec un minimum d'intelligence, enfin, en tout cas celle dont on est capable. Et voilà, l'idée c'est de vous inclure toutes et tous le plus possible pour que lors du culte du dimanche, vous puissiez participer sereinement également au chant. Parce que comme l'a rappelé très justement Agnès il y a quelques minutes, chanter c'est prier deux fois et l'importance du chant ici dans notre église est évidemment fondamentale. Voilà, donc je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps, je vous redis de nouveau que vous êtes toutes et tous les bienvenus. Vous pouvez évidemment, si vous le souhaitez aussi, rejoindre le chœur, ça n'est pas interdit. Nous répétons tous les jeudis soirs de 19h30 à 22h ici, soit dans le temple, soit en salle mono en face. Nous travaillons en ce moment le Requiem de Mozart. Là, par contre, il y a une petite audition à passer. Ça n'est pas une audition pendant laquelle je jugerai votre voix. Il s'agit juste de vérifier que vous êtes capable de chanter quelque chose, enfin de reproduire quelque chose que je vais vous montrer, que je vais vous jouer. C'est pareil, il n'y a pas besoin de savoir lire la musique, pas besoin d'avoir appris la musique. Et un petit peu d'expérience chorale est la bienvenue, parce que sinon après on est perdu. Et évidemment, il faut que nous puissions avancer au même rythme. Voilà, donc n'ayez pas peur, venez me voir, venez le samedi à 10h. On est tous très sympas. Vous serez bien accueillis et on essaye de faire de la belle musique le mieux possible. Voilà, merci infiniment pour ce temps de parole, Aurore.
Et le prochain rendez-vous est samedi 12 février et non 19 comme écrit ici, parce que justement pour avoir encore plus de monde, nous nous sommes aperçus que le 19 était le début des vacances scolaires et donc nous avons, Alexandre nous a passé un coup de fil pour demander à ce que nous déplacions au 12 février Le prochain Venez chanter, samedi 12 février, ce qui veut dire que le chœur sera avec nous le 13 février prochain. Voilà. Merci à toi, Alexandre. C'est le moment de l'offrande. Je te passe la parole pour le moment de l'offrande. Tu fais ça beaucoup mieux que moi.
Ah, je ne sais pas du tout si je fais ça mieux que toi, mais bon. Comme vous le savez, nous ne vivons que de dons, les nôtres, les vôtres, que nous mettons en commun, et donc que chacun décide de donner ce qu'il souhaite, sans regret ni contrainte, pour la vie de notre Église. Unissons-nous dans la prière les uns pour les autres. Seigneur Jésus, à la veille de mourir pour nous, tu as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un, comme toi en ton Père et ton Père en toi. Fais-nous ressentir jusqu'à la douleur, l'infidélité de notre désunion. Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache encore en nous d'indifférence et de méfiance, voire peut-être d'hostilité mutuelle. Mais accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que monte incessamment de nos âmes et de nos lèvres ta prière pour l'unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. En toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l'unité dans l'obéissance à ton amour et à ta vérité. Éternel, Dieu de la vie, nous te confions tout le travail œcuménique qui se fait entre nos églises depuis de nombreuses années. Et nous te confions tout particulièrement celui de notre groupe biblique œcuménique qui se réunit tous les mois. Nous te prions pour la vie de nos églises, nous te prions d'ouvrir nos cœurs à un accueil encore plus large, à la reconnaissance réciproque de nos richesses, au bonheur de les partager et ainsi d'être les témoins fidèles à ta parole, portés sans distinction par ton amour sans condition, un amour sans cesse renouvelé. Nous te confions la consultation synodale dans laquelle s'est engagée l'Église catholique tout au long de cette année. Que chaque voix puisse s'exprimer, puisse être écoutée, entendue. Nous te confions celles et ceux qui ont demandé le secours de notre prière, de notre soutien. Nous te confions celles et ceux qui souffrent de quelque nom que s'appelle leur souffrance. Nous te prions pour la paix dans notre monde, comme nous le disons si largement, mais qui commence par la paix que tu déposes dans nos cœurs lorsque nous prenons le temps, lorsque nous nous mettons dans l'aujourd'hui de nos vies, lorsque nous te faisons confiance ici et maintenant. Nous rassemblons nos prières maintenant dans celles que Jésus a enseignées à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous restons debout pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur et j'invite Yves à me rejoindre pour ce moment. Amis, frères et sœurs, soyez toujours humbles et patient. Supportez-vous les uns les autres avec amour.
Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres.
Que la grâce de Dieu notre Père, l'amour de Jésus-Christ, notre frère,
et la paix de l'Esprit Saint, notre Consolateur, soit avec nous tous, dès maintenant et à jamais.
Amen. Et nous prendrons le dernier répond qui s'intitule « Confie à Dieu ta route », qui se situe à la fin du petit livret au début du psautier français. « Confie à Dieu ta route », donc « Bénis ô Dieu nos routes ». Le Père Yves et moi-même, nous vous souhaitons un très bon dimanche.